Respire.
J'ai tout essayé, tout fait.
Je suis à bout.
On dirait que je frappe un mur.
Respire.
Je suis pas belle.
Check ses photos, ouais.
Facebook a l'air de rien à côté.
C'est un vide. C'est un fake.
J'ai tout donné ce que je me suis donné à fond.
Plus rien qui fonctionne.
J'arrête pas d'aider tout le monde.
J'y crois pour les autres, mais plus pour moi.
Je cours tellement, je suis vide. J'arrive plus à respirer.
Les enfants sont partis, ils ont payé. Pourtant, ils ont le grand vide.
Pas juste dans la maison, là, mais entre nous.
C'est entre nous.
Je me sens fake.
Respire.
J'ai donné tout ce que je pouvais.
Respire.
Il n'y a plus rien qui fonctionne.
Je me sens vide, tellement vide.
Par où on trouvé le manuel?
J'ai l'impression d'être dans une spirale.
Comment reprendre contrôle?
Un manège qui s'emballe.
Est-ce qu'il y a une porte de sortie à tout ça?
Comment on trouve l'équilibre?
Respire. OK. Respire.
J'ai tout fait. Il n'y a plus rien qui fonctionne.
Je te dis, j'ai essayé, je leur dis, je vais changer, promis.
Je veux enfin comprendre.
J'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être transformé.
C'est un plaisir pour moi de vous apporter la parole aujourd'hui et aussi d'apporter ma voix à cette série d'enseignements sur le thème « Transformer ». Je vous encourage à regarder, si vous ne l'avez pas fait, regardez les messages depuis le début, car ces messages sont puissants et impactants. Nous attendons d'ailleurs des témoignages à chaque semaine de vie de gens qui ont été transformés. Alors aujourd'hui, j'espère aussi que ce message sera une source d'inspiration et une source d'espoir pour vous. Le titre que j'ai choisi, c'est « Dieu transforme les obstacles en opportunités ». Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui alors que tu entends, tu écoutes ce message-là, mais je veux te dire que Dieu a la capacité, a le désir de changer tes circonstances en opportunités. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Dieu transforme les circonstances, mais nous allons aussi voir comment Dieu a le désir, comment Dieu veut nous transformer à travers les circonstances. Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, on constate que d'un couvert à l'autre, Dieu a transformé des obstacles, des défis, j'irais même jusqu'à dire des épreuves en opportunités. Je vous rappelle le message de Pasteur Ben il y a 2 semaines de cela, qui nous a parlé de la vie de Joseph. Il nous a rappelé, on peut le lire dans le livre de la Genèse, et particulièrement dans Genèse au chapitre 50 au verset 20, que Dieu a changé le mal en bien. L'histoire de Joseph nous montre comment cet homme qui a été trahi, qui a été vendu, qui a été accusé injustement, Dieu a transformé cette situation et a fait de lui l'homme, le deuxième homme le plus puissant. Dieu, il a dit, Joseph a dit, vous aviez projeté, il a dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je veux t'encourager que Dieu a un mais pour toi. Il l'a fait aussi dans la vie d'Abraham. Juste vous rappeler, Dieu donne une promesse à Abraham. Dieu donne une promesse à un couple qui est infertile. Mais, 25 ans plus tard, Sarah et Abraham tiendront un enfant dans leurs bras et ils auront une grande descendance. Tu es peut-être dans l'attente de quelque chose comme Abraham. Tu es peut-être dans ce test du temps. Accroche-toi, car Dieu a un mais. Dieu peut transformer ce défi en opportunité. Et encore là, on peut voir dans la vie de Moïse les erreurs. Moïse est un homme que Dieu a utilisé pour libérer son peuple. Il l'avait choisi pour emmener le peuple dans la terre promise. Mais Moïse, qu'est-ce qui arrive dans le cours de l'histoire? Moïse tue un Égyptien. Il se sauve au désert dans la honte. Si on arrête le film de sa vie, tout semble terminé. Mais Malgré ses erreurs, Dieu avait un mais et il sera, Moïse deviendra, il a été le libérateur du peuple d'Israël. Peu importe la situation aujourd'hui, tu es peut-être comme Moïse, tu as peut-être commis des erreurs. Je veux te dire qu'il y a aussi un mais pour toi. Tu es peut-être aussi dans une situation critique. Pierre vivait une période extrêmement difficile. Je vous rappelle, dans cette période de l'histoire, c'est une période de persécution. Hérode est en train de faire mourir les chrétiens, particulièrement Jacques. Jacques venait de mourir et Pierre est mis en prison et attend sa sentence. Si on arrête l'histoire encore là, tout semble terminé, mais Dieu a changé la circonstance en bénédiction. Dieu a entendu les prières de son Église, il est intervenu et Pierre a été libéré. Tu es peut-être ce matin dans une situation critique. Tu as peut-être besoin d'une intervention divine de Dieu. Je veux te dire qu'il y a un mais pour toi. Ça va aussi pour Marie. Marie, c'est une femme qui était aux prises avec un passé, c'était une prostituée. Elle était liée par toutes sortes de choses. Mais Jésus, dans son amour, est intervenu. Il l'a guérie. Il a même fait d'elle une évangéliste, la première femme qui a apporté la parole. Je veux te dire aujourd'hui, attache-toi, car Dieu a un mais pour toi. Dieu, tu sais, lorsqu'on parle, on lit la Bible, peut-être que tu dis aujourd'hui, « Stéphanie, je le comprends, c'est un récit, c'est les patriarches, c'est Pierre, c'est des apôtres, c'est des... » Est-ce que Dieu a encore un mais pour moi aujourd'hui? Je veux te dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui éternellement, et il ne change pas. Nous avions, vous savez, avec cette pandémie qui nous a frappés, on avait des défis, des obstacles, et même on vivait, peut-être que tu vivais des épreuves avant la pandémie. Peut-être que c'est à toi que je m'adresse, et peut-être qu'en ce moment, avec cette deuxième vague qui n'arrête pas, qui ne finit pas, peut-être que tu es face à une situation critique, peut-être que tu es face à des erreurs comme Moïse, peut-être que tu es dans le test du temps comme Abraham. Je veux te dire que avant la pandémie, pendant la pandémie, et malheureusement, je dois dire qu'après la pandémie, on aura des obstacles en relevé, mais Dieu peut les changer et les transformer. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Peut-être que je te parle, puis ton mariage avant la pandémie, c'était difficile. Et peut-être qu'en ce moment, ça tient à un fil. Peut-être que c'est tes enfants, tu as des enfants qui sont à l'école et avec tout, vous savez, faire étudier en Zoom, en ligne, c'est compliqué, c'est extrêmement difficile pour nos jeunes avec les classes et l'école. Peut-être ton jeune est sur le bord d'arrêter l'école, de vouloir arrêter l'école. Peut-être que ton jeune y a recommencé ou augmenté sa consommation d'alcool ou de drogue. Peut-être que tu vis peut-être toi-même des défis de santé mentale. Tu es pris avec l'anxiété, l'insomnie. Peut-être c'est un proche autour de toi. Peut-être que c'est quelqu'un, tu écoutes son message, tu dis, ben moi, c'est pas ça. Moi, la pandémie fait que je travaille trop. Je suis épuisée, j'ai besoin d'oxygène. Et peut-être que tu es tout à fait dans l'inverse de la situation. Et toi, tu dis, c'est l'inverse. Moi, avec la pandémie, j'ai complètement perdu mon travail. Je suis inquiet au niveau de mes finances. Je suis inquiet. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Dieu est le même. Et Dieu peut changer ta situation en opportunité. Et ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu ne le vois pas agir comme Joseph, comme Abraham, comme Moïse, comme Pierre alors qu'il était dans sa cellule, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas agir que Dieu n'est pas en train d'agir. Et si on regarde cette image-là, et ça me faisait bien sourire parce que lorsqu'on regarde ça, c'est comme une mer d'huile, tout est tranquille, on a l'impression que tout est arrêté, il n'y a pas de vent. Mais si on regarde, si on pouvait plonger dans les eaux et aller voir sous l'eau, on verrait qu'il y a des sous-marins, que sous l'eau, il peut avoir des sous-marins et que parfois, Dieu agis en sous-marin. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu ne vois qu'une mer d'huile que Dieu n'est pas en train de torpiller une situation, que Dieu n'est pas en train de travailler afin que ton mariage puisse être restauré, que tes enfants peut-être puissent revenir à lui. Dieu est en train de travailler, même si tu ne le vois pas agir. Lorsque la pandémie a commencé, c'était au mois de mars, comme vous le savez, et moi, j'étais à Kinshasa. J'apportais la parole, c'était une opportunité extraordinaire que les femmes là-bas préparaient depuis des années, je vous dirais, parce qu'il y avait eu des conflits politiques, et c'était la rencontre que nous attendions. Et c'était une très grosse église à Kinshasa, et il y avait des milliers de femmes qui étaient là, et j'ai eu le privilège d'apporter des messages. Je voyais les femmes se réjouir. Et j'ai vu Dieu agir. Mais lorsqu'on regardait les infos à la télé et tout ça, j'ai vitement constaté qu'il était grand temps de revenir et parce qu'on commençait le Canada à fermer les frontières. Et j'ai pris un des tout derniers vols de Kinshasa. Je faisais Kinshasa-Bruxelles, Bruxelles-Montréal. Et lorsque je suis arrêtée à Bruxelles, c'était un moment apocalyptique. Si vous avez déjà voyagé, vu cet aéroport-là, c'est la frénésie. Il y a des milliers de personnes qui passent à travers cet aéroport-là. Et pendant l'instant en attendant le vol qui suivait, je me promenais dans l'aéroport, tout était complètement fermé. Les cafés, les restaurants, les gens avaient des masques. Il n'y avait même plus de chaises pour s'asseoir. Les quelques personnes qui restaient étaient assises par terre. Et avec les masques, on pouvait voir l'anxiété dans leurs yeux. À partir du mois de mars, la vie n'était plus le même si on voyageait. Et juste vous montrer une photo fin septembre, avant qu'ils referment les frontières à nouveau, j'ai pu me rendre à Genève pour des conférences et à Paris. Et regardez comment c'est fou. Alors que c'est un Airbus qui pouvait contenir peut-être 300, 350 personnes, on était à peine 30 personnes porter le masque tout le long du voyage. Et lorsque je suis revenue à la maison de Kinshasa dans ces conditions-là, il y a eu un sentiment qui est venu à mon esprit et je me suis dit, la vie ne sera plus jamais la même. Et c'était une de mes plus belles années en termes de conférences. Je devais voyager presque à tous les mois et faire plusieurs pays et tout à coup, tout ferme. Et là, je me suis retrouvée, comme beaucoup d'entre vous, premièrement en rentrant d'Europe en quarantaine, isolée. Et je me suis mise devant mon téléviseur et j'écoutais en boucle. J'ai été pendant une période de temps où j'écoutais en boucle les infos. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Seigneur, tout est arrêté. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai eu un sentiment de dire, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis mise à prier. Et j'ai dit, Seigneur, c'est impossible. Tu peux changer cette situation, cette saison de ma vie, alors que tout semble fermé pour moi, à quelque chose de plus grand. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé à partir de ce moment-là à retourner à un manuscrit que j'avais déjà débuté d'un livre. Et c'est fou, hein, parce que c'était avant la pandémie. Et c'est un manuscrit qui s'appelle... Le titre que j'avais à cette époque-là, c'était « Espoir ». Comment nous avons besoin d'espoir? Et alors que je suis là et que je me dis « Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Dieu m'a remis cette pensée et il a changé ces circonstances en opportunité. Et je me suis mise à écrire et à écrire et à écrire. Et c'est une merveilleuse nouvelle que j'ai, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Ce livre est maintenant terminé. Il va sortir dans les prochains jours. Il va être disponible sur Amazon, sur mon site internet, stephanierida.com. Mais dans ce livre, j'ai médité sur l'espoir et je parle des fondations de l'espoir. Pourquoi nous pouvons garder espoir? Pourquoi, comme croyants, nous pouvons croire aujourd'hui que Dieu transforme les obstacles en opportunités? Parce que notre fondation est solide. L'espoir, c'est une ancre pour notre âme. L'espoir que Jésus est vraiment ressuscité. Et c'est exactement le chapitre, il y a une section, c'est sur les fondations de l'espoir. Comment l'historicité de Jésus, la véracité prouvée de façon historique de la résurrection de Jésus. Et par la suite, j'ai travaillé beaucoup sur les épreuves, comment les épreuves de la vie, le temps, les déceptions, les tempêtes peuvent nous enlever l'espoir. Et pour finalement terminer avec les triomphes de l'espoir, comment l'espoir peut nous guider dans l'accomplissement de nos rêves. Et chaque chapitre se termine avec une histoire d'espoir. Donc, je n'aurai pas le temps de le prêcher aujourd'hui. Ce n'est pas le but de ce message-là. Mais je veux vous encourager à garder l'espoir. Car avec Dieu, tous les espoirs sont permis. Et si on regarde, vous savez, c'est le livre, si on regarde, à travers l'histoire, ce n'est pas la première pandémie que nous traversons. Vous savez, on a beaucoup parlé à travers l'histoire de la grippe espagnole. Et la grippe espagnole a été une des pandémies au 20e siècle la plus meurtrière. Et on a l'humanité, bien que la science était beaucoup moins avancée, l'humanité a passé à travers. Et lorsque je faisais quelques recherches, ça m'a fait bien rire parce que, vous savez, le port du masque, à chaque pandémie a son lot de débats et ça me faisait bien rire parce que c'était écrit « Porter un masque ou aller en prison ». Heureusement, c'est moins sévère aujourd'hui, mais je veux vous encourager qu'avec Dieu, tous les espoirs sont permis et nous allons passer à travers ces moments difficiles. Mais l'espoir, ça nous aide, ça nous donne, c'est un catalyseur de transformation. L'espoir, lorsqu'on choisit l'espoir, ça nous donne cette foi de continuer à croire. Vous savez, on ne choisit pas les obstacles que nous devons affronter. Et je le dis avec grand respect, parce que je sais que plusieurs, vous écoutez ce message et vous luttez, vous avez des défis familiaux, professionnel, financier, personnel, relationnel. On ne choisit pas les obstacles que nous affrontons, mais nous pouvons choisir la façon dont nous allons les surmonter. Et c'est peut-être plus naturel, je vous dirais. Tous ces défis, ces obstacles-là nous paralysent. Ils peuvent, les peurs, les pertes, le manque de perspective, ça peut nous paralyser et empêcher, peut-être même parfois nous donner, on perd la force de lutter et de combattre. Mais l'espoir nous redonne vie. Nelson Mandela, qui a lutté toute sa vie contre la ségrégation raciale, vous savez, était 25 ans emprisonné dans des conditions difficiles. Il a reçu un prix Nobel et j'étais touchée parce que cet homme qui a vécu des choses extrêmement difficiles, la peur, la crainte, a écrit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Et c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui, que vos choix, que nous puissions choisir l'espoir, la foi que Dieu transforme ces circonstances-là. Qu'est-ce que c'est l'espoir? Par définition, l'espoir, une définition de l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on désire. C'est ça l'espoir, c'est espérer, attendre quelque chose de mieux et de favorable. Par contre, si on s'arrête à cette simple définition, on fait fausse route. L'espoir, ce n'est pas non plus comme une émotion qu'on ressent, vous savez, comme la peur ou la joie, une émotion qui peut varier selon les circonstances. L'espoir non plus, ce n'est pas... Et je le dis en riant parce que souvent, des fois, on va dire les gens qui ont beaucoup d'espoir, « Ah, eux, moi, je ne veux pas avoir cet espoir-là, j'ai peur d'avoir des faux espoirs. » Mais avoir l'espoir ne veut absolument pas dire de vivre dans le déni, de vivre dans le pays des licornes et des bisounours et les sucres d'orge. Loin de là. L'espoir, ce n'est pas non plus un trait de personnalité. Ce n'est pas un trait de caractère. Par exemple, on va dire les gens qui ont de l'espoir, c'est des gens qui sont optimistes et des gens qui sont qui ont moins l'espoir, moins cette foi de croire que Dieu peut agir. Ben, c'est des gens qu'on va dire, ils sont un peu plus pessimistes. Et souvent, on va dire, ah, quelqu'un, il y a des gens, ah, cette femme-là ou cet homme-là a de l'espoir. Elle voit toujours ou il voit toujours le verre à moitié plein. Ou quelqu'un qui est plus négatif, qui a peur d'avoir des faux espoirs, il va voir toujours le verre à moitié vide. Et on rigole bien chez nous parce que moi, de par mon tempérament, je suis une personne, une femme qui voit le verre qui est bien souvent à moitié plein. Moi, la vie, le verre, il n'est pas à moitié plein. Le verre, il déborde. Lorsque j'envisage un projet, lorsque j'envisage quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, je suis remplie d'espoir. Et par contre, mon mari, qui est un administrateur cartésien, bien posé, qui calcule, lui, il va dire, attention, Stéphanie, le verre, il n'est pas à moitié plein, il est à moitié vide. Et dans le fond, l'espoir, c'est ni de voir le verre à moitié plein et ni de voir le verre à moitié vide. Ça n'a absolument pas rapport avec ça. L'espoir, c'est une décision. L'espoir, c'est un choix. La docteure Jikic, qui est une chercheuse à l'Université de Toronto en psychologie, a écrit un texte et elle a fait des recherches sur ce sujet. Et j'aimerais vous lire une de ses citations. Elle a dit, « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. » Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'espoir que Dieu peut changer ma situation, la transformer. C'est un choix que je fais, que je choisis en dépit de ce que je vois aujourd'hui. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, et celle-ci, elle a été écrite par un psychiatre juif d'origine autrichienne, pardon. Et cet homme-là a vécu vraiment l'atrocité des camps de concentration. Et il a écrit, « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude en toutes circonstances, de choisir sa propre voie. » Et c'est un premier point de ce message. C'est ce à quoi je veux vous encourager, à choisir, à mettre foi dans l'espoir du Dieu Tout-Puissant qui change les circonstances, qui change le mal en bien et qui réalise ses promesses. Et je veux vous encourager à dire, Seigneur, ce matin, peut-être que c'est difficile pour toi de dire, Seigneur, moi, je veux faire ce choix-là. Je veux croire, peu importe ce que je vois. Je sais peut-être que tu es en train d'agir en sous-marin, mais je sais que tu es en train d'opérer quelque chose. Dieu transforme les circonstances. Mais nous allons voir dans la suite de ce message que Dieu nous transforme à travers les circonstances. Et peut-être que ça va vous faire sourire, mais des fois, c'est peut-être plus important d'être transformé dans les circonstances que les circonstances soient changées. Parfois, un changement de soi, j'ai écrit, un changement de soi est souvent plus important qu'un changement de situation. Si on choisissait, bien sûr, l'espoir de croire que Dieu est en train d'intervenir, mais si aussi on choisissait de voir les circonstances, les défis, comme des opportunités de changement. C'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais pensez-y un instant. Si au lieu de voir les obstacles, les prendre à reculons et lutter, si au contraire on disait « Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi que tu es en train d'agir, mais en même temps, opère une transformation dans ma vie. » Les obstacles de la vie peuvent, c'est un choix, nous rendre pires ou nous rendre meilleurs. Elles peuvent nous rendre amers ou épanouis. Elles peuvent nous rendre colériques, critiques ou pacifiques. Elles peuvent nous rendre égoïstes ou généreux. Les obstacles de la vie, peut-être qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, les contrariétés, te rend impatient ou impatiente, mais elle peut te rendre plus persévérante. Les obstacles de la vie peuvent nous faire abandonner ou nous fortifier, nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu, nous détourner ou, au contraire, contribuer au plan de Dieu. Barack Obama, qui a été le premier président de couleur élu, a dit, vous savez, que ça prenait tout un vent de changement. Il a écrit, « Le changement n'est jamais facile, mais toujours possible. Être transformé à travers les circonstances de la vie, c'est difficile. C'est parfois difficile, mais c'est toujours possible. » Ajahn Chah a écrit, « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Est-ce que, en ce moment, à travers les circonstances de ta vie, tu es étiré de toutes parts? Est-ce que tu es sous pression? Peut-être que tu as envie, tu ne reconnais plus ton caractère, la façon de t'exprimer. Peut-être que c'est le temps de dire, Seigneur, à travers cette situation, viens, Seigneur, la renverser. Viens transformer mon caractère. Fais de moi quelqu'un qui est plus compatissant au lieu d'être colérique. Quelqu'un qui va être plus paisible au lieu d'être hargneux, voyez-vous. Et lorsqu'on commence à rechercher la transformation, c'est sûr que c'est difficile. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller dans des mauvaises habitudes que de remonter le courant de la transformation. Mais la transformation, c'est possible. Encore là, lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, Dieu a transformé des circonstances, mais Dieu a aussi transformé des gens à travers ces circonstances. Je vous ramène à Moïse. Moïse était un homme qui était colérique, un meurtrier. Il a tué cet Égyptien-là, mais encore un mets de Dieu. Dieu, il y a des mets de transformation de circonstances, mais il y a des mets de transformation de caractère. Mais Dieu a fait de lui, il est devenu un grand libérateur. Et même la Bible va dire de lui, hein, dans le livre des Nombres, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Il est passé d'un homme colérique à un homme patient. Transformation, un choix à travers l'épreuve. Difficile, inconfortable, mais possible. Si on regarde aussi par la suite, Gédéon. Gédéon était un homme qui, un homme qui était découragé dans les juges, qui était un homme qui s'apitoyait, qui avait l'ennemi qui menaçait, qui voulait s'en prendre à lui, à sa famille. Il était apitoyé, il était incrédule. Mais Dieu a fait de Gédéon un héros de la foi. Si vous lisez dans le livre des Hébreux, on retrouve les grands noms des héros de la foi, vous trouvez Gédéon, ce jeune homme caché qui ne voulait pas aller affronter l'ennemi, qui se plaignait, je suis le plus petit. Dieu a transformé son caractère et a fait de lui un héros de la foi. Dieu l'a fait pour Gédéon, il peut le faire pour toi. Pierre, un homme qui a renié Jésus alors qu'il est sous la pression, alors que c'est difficile de tenir pour Jésus, alors il décide de renier sa foi. Mais Dieu a transformé cet homme. Il est devenu le chef des disciples et le père de l'Église. Et lorsqu'on parle de transformation de caractère, Paul est l'un des meilleurs exemples. Paul est un homme qui détestait les chrétiens, qui les a persécutés. Mais les mets de Dieu. Il est devenu l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme. Dieu veut te transformer. Dieu est capable aujourd'hui de transformer ta circonstance, mais il est aussi capable de transformer ton cœur. Et pourquoi je dis qu'il est capable de le faire? Peut-être que tu ne le sens pas, tu dis, oh, je veux, ça fait longtemps que j'essaie. Ou peut-être même que tu n'as même plus le désir qui transforme un trait de caractère, que tu luttes, que ce soit une dépendance, que ce soit des mauvais choix dans ce que tu regardes, dans ce que tu dis. Peut-être que c'est de l'impatience, peut-être que c'est de la colère, comme Pasteur Claude a si bien enseigné. Peut-être que c'est quelque chose, et avec les pressions de la pandémie, tu as baissé les bras et dit, je ne changerai jamais. La bonne nouvelle, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, ça dit, « C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. » Si dès aujourd'hui, à l'écoute de ce message, tu dis, « Seigneur, je me sens incapable, j'ose même plus avoir l'espoir que ça peut changer, que je peux changer. » Dieu, lorsque tu fais appel à lui, peut venir transformer ton cœur et te donner ou te redonner le désir de changer. Dieu est capable de donner ce désir-là de changer, mais Dieu est capable aussi de te donner la force pour être transformé. Dans l'Évangile de Jean, vous savez, ce fameux texte qui est si puissant, ce texte-là, dans la dernière année, a été un passage que j'ai médité à tous les jours. face à des défis personnels, face à des préparations de messages, face à l'écriture de mon livre. Je me disais, Seigneur, moi, qu'est-ce que j'ai à offrir, à donner? Mais toi, en moi, peut produire un fruit extraordinaire. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5, c'est écrit, hein, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est un texte qui est puissant et c'est un texte de transformation. C'est un texte qui nous dit, lorsque je suis, vous savez, le cep, le serment, c'est un tronc. Lorsqu'il y a un tronc et que tu es la branche qui est attachée au tronc, la vie qui circule dans le tronc, la sève, peut aller dans la branche et porter du fruit. C'est exactement la même chose dans nos vies personnelles. Dieu est capable de te donner le désir. Seigneur, viens me transformer et il te donne la solution. Lorsque tu vas en sa présence, lorsque tu viens dans sa parole, lorsque tu reconnais ton besoin et dire, Seigneur, je reste attaché à toi, fais-moi porter du fruit, change mon caractère, change mes habitudes, change certaines dépendances et il va le faire. Sa parole ne change pas, elle est véridique. Et si on est honnête, personne d'entre nous aime traverser des épreuves. Personne aime les défis. Il y a des défis qui sont positifs, mais des défis qui sont des obstacles où il faut se battre. Peut-être même tu dis, waouh, moi j'ai cette épreuve-là et je me dis, Seigneur, est-ce que j'ai la force d'être transformée? Il va te donner son désir, comme j'ai dit, il va te donner cette force-là. Mais regarde, l'espoir fait que regarde à la fin de l'histoire. Repense aux mets, les mets de Joseph, les mets d'Abraham, les mets de Moïse, de Pierre, de Paul. Dieu va le faire et Dieu les a transformés. Et moi, il y a quelques années, moi, ma famille, nous avons, comme plusieurs d'entre vous, hein, vous savez, chacun d'entre nous a nos défis et nos luttes et nos combats. Et peut-être vous m'avez déjà entendu apporter la parole sur ce sujet-là, mais il y a quelques années de cela, j'ai été confrontée, moi et ma famille, à des défis familiaux importants. Et je n'irai pas dans le détail parce que je veux respecter toute ma maison. Mais une chose, la personne qui vous parle aujourd'hui, elle vous parle en connaissance de cause, sachant qu'il existe des mets de Dieu. Dieu a transformé des circonstances en opportunités et même en bénédictions. Dieu a agi dans ma maison, dans ma vie. Et si on discute ensemble, on prend un café, et je vous dirais même, c'est sûr que je ne voudrais jamais repasser dans cette saison-là. C'était difficile, des pleurs. Mais avec un recul, la personne qui vous parle aujourd'hui vous dirait, non, je ne voudrais pas revivre ça, c'est certain. Mais une chose est certaine, ces événements-là de la vie m'ont transformée. M'ont transformée comme femme. On fait de moi, m'ont transformée comme croyante. Fait de moi une femme qui, j'étais déjà combative dans la prière, mais encore plus persévérante. Une femme qui réclame les promesses de Dieu. Aussi, plus de compassion, parce que j'étais confrontée à la douleur, à toutes mes fonctions pastorales ici à l'Église Nouvelle Vie. Mais ces événements-là m'ont fait voir d'autres douleurs, des gens qui souffraient, et a augmenté ma compassion. Ces circonstances-là ont transformé qui je suis, mais ont aussi transformé ma prédication. Et c'est exactement ce à quoi je veux vous encourager. Rappelle-toi, Dieu transforme les circonstances, mais Dieu a la capacité de te transformer. Et c'est pour ça que dans Jacques, il est écrit, lorsqu'on regarde dans le livre de Jacques, c'est écrit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète, imaginez, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les épreuves, c'est rarement un sujet de joie, à moins qu'on les voie dans un autre angle et qu'on dise ces épreuves-là peuvent contribuer à quelque chose dans ma vie. Regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et je me disais, je méditais en préparant ce message-là, je me disais, pourquoi cette transformation-là devrait être un sujet de joie? Et la réponse est dans le texte qui suit, dans le livre de Pierre. C'est fascinant. On va le lire ensemble. Ça dit, « Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui, pourtant, disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Je vais le répéter encore. « Elle vous vaudra louange, la gloire et l'honneur. » À travers les circonstances difficiles, à travers les épreuves de la vie, Dieu, comme un potier, est en train de te modeler. Si tu le laisses te transformer, il est en train de te modeler et faire de toi un vase d'honneur. Et lorsqu'on parle de vase d'honneur, pour moi, en tout cas, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est les vases Ming. Vous savez, les vases Ming, c'est des vases qui sont bleus et blancs. Et voici, ça, c'est une illustration d'un vase Ming. Ce vase-là est un des vases qui a été vendu le plus cher récemment. Il a été vendu au prix de 25 millions de dollars. Vous savez, puisqu'on a du budget ici à l'Église Nouvelle Vie, alors j'ai demandé si je pouvais acheter un vase Ming. Et voilà ce qui ressemble à un vase Ming, mais bien sûr, le mien vient de Chine, mais surtout du magasin du dollar. Et ce vase Ming-là, lorsqu'on le regarde, je me disais, Dieu fait de nous ces vases d'honneur-là. Et la meilleure illustration, c'est de regarder un vase qui vaut une fortune. Et je me disais, pourquoi un vase Ming? Bon, c'est joli, mais pourquoi un vase Ming vaut autant d'argent? J'ai commencé à faire des recherches. Et comment j'ai regardé à quelques outils de réflexion, et ça disait dans un texte, comment reconnaître un vase chinois de valeur? Comment savoir que le vase est vrai, et parce qu'il est vrai, c'est qu'il y a de la valeur? Premièrement, pourquoi un vase Ming a de la valeur? C'est son créateur. Les vases Ming ont été, ça vient de la dynastie, ont été créés à l'époque de la dynastie des empereurs Ming au 14e et 15e siècle. Donc, leur valeur vient du créateur à cette époque-là. Deuxièmement, la valeur des vases Ming, c'est leur mode de fabrication. Et c'est fou parce que la porcelaine utilisée pour fabriquer ces vases, ça provient d'une argile qui est réfractaire, chauffée dans des fours à très haute température, qui deviendra translucide, fine et brillante. Et si je m'arrête juste ici, Dieu fait de nous des vases de valeur, des vases d'honneur. Et qu'est-ce qui fait notre valeur? C'est notre Créateur. Nous avons été créés par amour, parfaits à l'image de Dieu, le plus grand des créateurs. Nous avons été rachetés à la croix, la vie de Jésus, rachetés par la mort et la résurrection de Jésus. C'est notre valeur. Tu vaux le prix, la vie du Fils de Dieu. Tu as de la valeur. Et deuxièmement, tu as de la valeur parce que, Dieu nous transforme. Ne sommes-nous pas cette argile réfractaire par diverses, notre caractère, notre personnalité, notre confort, cette argile réfractaire-là, mais lorsqu'il est chauffé par les épreuves de la vie, va devenir un vase, une porcelaine qui est éclatante, qui est brillante. Mais savez-vous, le plus frappant d'un vase Ming, comment on peut dire qu'un vase Ming est un vrai et que c'est une grande valeur, c'est sa longévité. c'est qu'il a été fait au 14e ou 15e siècle à cette époque-là. Et pour voir si un vase est vraiment vrai, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle par une technique chimique qui s'appelle la thermoluminescence. Et ils vont prendre ce magnifique vase, Ming, et ils vont le mettre dans un four à haute température, en haut de 1000 degrés. Et ils vont chauffer. Et l'énergie qui va être mise dans ce four-là va être captée par la porcelaine. Et la porcelaine va émettre de la lumière. Elle va briller. Ceci prouve que c'était le même substrat, la même matière utilisée qu'à l'époque des vases Ming. Et le Seigneur me donnait cette pensée pour ma vie et peut-être pour ta vie ce matin alors que tu écoutes ce message. L'épreuve de la vie, la chaleur des circonstances, tu es capable à travers, alors que tu es dans l'épreuve, le four de l'épreuve, dans cette chaleur-là, te faire briller et te montrer que tu es un vase d'honneur. Et le dernier point, alors qu'on va terminer en prière et que l'équipe, on va louer ensemble Dieu. Le dernier point, pourquoi on peut dire que c'est un vase Ming, un vase d'honneur, un vase d'une valeur inestimable? Lorsqu'on étudie, c'est qu'on regarde que les vases Ming ont une marque sous le vase. Et la marque, c'est fascinant, c'est la marque, c'est comme une signature. Et ça veut dire, c'est en mettant ce signe-là, ça certifie que les traces, que la marque qui est là, ça certifie que cette marque a été apposée au temps des empereurs Ming. Et je me disais, c'est exactement ça pour nous. Il y a une marque, peut-être qu'il y a une marque sur ton cœur aujourd'hui, une marque de blessure, une marque des épreuves, une marque du temps, peut-être une marque des erreurs que tu as faites, une marque de ton passé. Mais cette marque-là, par la grâce de Dieu, elle n'est pas en vain. Et elle nous aide à devenir ces vases d'honneur-là. Et si je tourne le vase, j'ai marqué 2020. Et ça dit, hein, la marque du vase Ming, ça voulait dire fait pendant la période de l'empereur Ming. Est-ce que la marque de 2020, l'année 2020, a laissé des marques sur ton cœur, a laissé des marques sur ta vie? Ces marques ne sont pas inutiles. Ces marques ne sont pas vaines. Ces marques prouvent ta valeur, que Dieu t'a transformé et a fait de toi ce vase d'honneur. Alors, je veux nous encourager, sous les pressions, les épreuves, les circonstances, que nous puissions émettre cette lumière-là et porter fièrement des marques de transformation que Dieu a fait dans nos cœurs. Alors, j'aimerais juste terminer en priant et te rappeler que Dieu transforme les circonstances et il a la capacité de te transformer à travers ces circonstances. Alors, j'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier pour ta vie, j'aimerais prier pour peut-être ta famille et j'aimerais juste te demander où tu es, peut-être de fermer les yeux simplement et on va juste terminer en prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui a été enseignée. Seigneur, ta parole dit qu'elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Alors, je te prie pour un homme ou une femme qui, en ce moment, a besoin de « mais », a besoin dans une situation de sa vie que tu transformes ses circonstances en opportunités. Tu connais chaque besoin et chaque situation. Alors, en ce moment, alors qu'ils entendent ce message, tu leur donnes l'espoir, premièrement. L'espoir, le choix de choisir l'espoir que tu as la capacité de changer les choses. Et même si en ce moment, ils ont l'impression qu'ils ne voient rien. Tu es, toi, en train d'agir dans leurs circonstances parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu l'as fait dans le passé et tu peux le faire encore aujourd'hui. Et je veux te prier pour un homme, une femme qui a besoin de transformation, que ces circonstances, ces obstacles puissent devenir une opportunité de transformation comme tu l'as fait dans la vie de Moïse, d'Abraham et de tous ces hommes, Seigneur. Viens, nous te donnons nos vies, Seigneur. Que nous puissions, viens créer en nous le désir et le faire. Viens alors que nous dépendons de toi, que nous puissions porter du fruit pour ta gloire. Et Seigneur, fais de nous ces vases d'honneur qui vont briller et d'un grand prix. Alors je te remercie, Seigneur, parce que tu entends nos prières. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je veux vous encourager à méditer ce message et surtout à demander à Dieu de venir vous transformer. Alors, sans plus tarder, nous allons terminer cette célébration dans la louange avec le groupe d'adoration.